BFM Radio, bonsoir. Frédéric Moreau du Coq à l'âne. Ce soir, nous partons pour l'année 1957. Roland Barthes et de la musique. À tout de suite. En 1957, Roland Barthes publie Mythologie. Pour le tout jeune homme que j'étais, quand mes yeux se sont posés sur les premières lignes de Mythologie, ce fut plus qu'un plaisir. Une joie sans limite. Vint ensuite la lecture d'autres de ses ouvrages comme Système de la mode, L'obvi et l'obtus, Fragments d'un discours amoureux, Journal de deuil. Et là, à chaque fois, la même sensation superbe d'avoir un homme qui parle à l'intelligence. En des temps durs et incertains, quand il est nécessaire de trouver réconfort et salut, face à la barbarie de la bêtise et au confort idiot du repli sur soi, Barthes est là. Un messager contre la guerre, à l'esprit, contre l'élitisme pervers, contre la réaction. De reprendre son souffle, de retrouver des forces, de se souvenir de ce qui est important et vital. Dans Mythologie, il fait du mythe l'image que la bourgeoisie se fait du monde et qu'elle impose au monde. La stratégie bourgeoise est de remplir le monde entier de sa culture, de sa morale, en faisant oublier son propre statut de classe historique. Le statut de la bourgeoisie est particulier, historique, dit-il. L'homme qu'il représente sera universel, éternel. L'idée première du monde perfectible, mobile, produira l'image renversée d'une humanité immuable, définie par une identité infiniment recommencée. Essayons donc de voir, par quelques exemples, ce qu'il en est de nos jours.
Shout about. Feel like shouting, but I don't have a thing to shout about. Gonna find what I'm looking for before my luck run out. Looking for a better future, forget about the past. Looking for a better future, forget about the past. This is my daily motto, cause trouble can't always last. With the rising sun. If my actions seem peculiar, just say it's all in fun. Every time I see my baby, chills run up and down my spine. Every time I see my baby, chills run up and down my spine. Cause she's one person that understands me, and she's mine, all mine.
Il y a deux attitudes bien courantes et qui parlent elles-mêmes et en disent long, très long sur notre temps. L'une est de réfuter tout travail critique en considérant que la critique est facile, dixit, et qu'elle ne vaut rien en regard du travail. La seconde, tout aussi constante, est de déclarer avec une ironie bien masquée que tout cela est bien trop intelligent ou conceptuel et que l'on est bien trop bête pour comprendre. Cette seconde posture, puisque posture il s'agit dans les deux cas, c'est-à-dire un comportement mensonger dont on use pour échapper à l'intelligence de l'autre dans le cas de la critique réfutée et pour déconsidérer celle du créateur dans le deuxième cas. Cette seconde posture donc relève d'une fausse modestie manifeste et d'une considération séculaire, petite bourgeoise, qui veut que le bon goût soit au sens commun et que tout ce qui relève de la pensée, du savoir, de la culture, est en lien avec le malin, loin de l'ordre et du véritable. Un mythe en soi, tout cela. Rien n'est plus réactionnaire, donc, que ces gens qui avancent cachés, derrière le camouflage de leur inculture déclarée et presque revendiquée. Il y a au fond de leurs yeux et dans les mains de leur esprit un large sourire sardonique, qui dit toute la haine qu'ils ont pour ceux qui ont réussi à force d'efforts et de refus de la facilité à s'élever au-dessus du marais putride de la bêtise.
Please, 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 please. I
Les jouets ont longtemps été artisanaux. Puis vint le temps de la production de masse et des innovations industrielles. Ils furent alors, à l'image de leur époque, synthétiques, en toutes choses. Que ce soit pour les matériaux utilisés, pour les produire, ou pour leur objet. Soldats, voitures, camions, animaux de la ferme, dinettes, panoplie de métiers, appareils ménagers, poupées. Les jouets deviennent alors un monde des adultes en dimension réduite. Une façon de préparer les petits d'hommes à une socialisation bien faite et à un avenir tout tracé. Un ensemble représentatif du mythe de la vie moderne parfaite. Puis vinrent les technologies dites nouvelles. Cet oxymore, porteur d'un mythe, à lui seul mériterait de s'y arrêter. Technologie nouvelle. Et les jeux qui petit à petit vont remplacer et supplanter les jouets d'antan deviennent eux-mêmes une façon de technologie. Les anciens étant relégués de ce fait aux vitrines des brocanteurs et des collectionneurs.
You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses, baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, 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 mine. That you're my nails and I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I often love you like I love a sugar. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine, 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 mine. That you're my nails and I twiddle on my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive crazy. Goodness gracious, just great balls of fire.
Avec le jouet industriel, l'enfant ne se pouvait en rien être créateur. Le jouet lui faisant jouer un rôle social. Mais plutôt lui donner les premières joies de l'usage et de la propriété. Le monde réduit du jouet lui donnant le pouvoir de le posséder. Dans le jeu vidéo, puis dans les jeux sur téléphone et tablette, l'enfant devient seigneur du fait de la domination qu'il détient sur l'adversaire, le plus souvent virtuel. Que ce soit un jeu sportif, stratégique, de combat ou d'installation. Le joueur détient des pouvoirs, des armes, des vies dont il use comme il le veut, au gré de ses désirs, sans autre conséquence que de devoir recommencer en cas d'échec. Autrement dit, il est roi d'un monde à sa guise. Ainsi, en un siècle, au gré des changements techniques et technologiques, l'enfant est passé du petit créateur qu'il était avec les riens dont il faisait ses jeux, au petit bourgeois propriétaire de voitures, de soldats ou de panoplies miniatures, et enfin au seigneur virtuel. Et ce mouvement s'est fait en parallèle à un mouvement inverse qui veut que dans notre monde dit technologique, nous n'avons plus prise sur rien. Pendant que l'enfant de 1900 jouait avec deux bouts de bois, son père travaillait la matière. Quand en 1950, l'enfant jouait avec une voiture réduite, son père bossait sur les chaînes de montage. Quand un enfant d'aujourd'hui combat des mutants ou des guerriers imaginaires sur sa boxe, son père passe ses journées rivé à l'écran de son ordinateur. Le mythe est qu'il n'est lui en rien un seigneur, mais un élément parmi d'autres d'un réseau en pleine connexion.
Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's a getting faster. everyone said, go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. A little longer, every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Love like yours will surely come my way.
Les émissions de télévision telles que Koh-Lanta font de l'héroïsme un bien de consommation et un loisir. Autant dire sans objet sinon de contenter le spectateur dans son goût constant pour l'exotisme et l'exploit inutile. Et pour engranger des recettes publicitaires. Il est caractéristique et caricatural qu'une société en vienne à produire de manière commerciale ce qui fut autrefois considéré comme vertu. Rien de plus inepte et amoral que de soumettre des candidats volontaires à des dangers factices ou artificiels, en regard de ce que le monde peut avoir de réellement dangereux. Le courage de ces candidats, et ce mot-là en dit assez sur le mythe que tout ceci sous-entend, un candidat est un postulant à une fonction publique, à un poste, en rien un héros. Leur courage donc est creux, puisque le héros est celui qui agit, non pour gagner quelque chose, mais pour sauver, sans autre motivation que le bien.
And motorcycle boots and a black leather jacket with an eagle on the back. He had a hot popsicle that took off like a gun. That fool was the terror of Highway 101. Well, he never washed his face and he never combed his hair. He had axle grease embedded underneath his fingernails. On the muscle of his arm was a red tattoo, a picture of a heart saying, Mother, I love you. He had a pretty girlfriend by the name of Mary Lou, but he treated her just like he treated all the rest. And everybody pitied her, 'cause everybody knew he loved that doggone motorcycle best. He wore black denim trousers and motorcycle boots and a black leather jacket with an eagle on the back. He had a hot popsicle that took off like a gun. That fool was the terror of Highway 101. She pleaded and she begged him not to leave. She said, I've got a feeling if you ride tonight I'll grieve. But her tears were shed in vain and her every word was lost in the rumble of his engine and the smoke from his exhaust. He took like a devil, there was fire in his eyes. He said, I'll go 1,000 miles before the sun can rise. But he hit a screaming diesel that was California bound. And when they cleared the wreckage, all they found was his black denim trousers and motorcycle boots and a black leather jacket with an eagle on the back. But they couldn't find the sickle that took off like a gun, and they never found the terror of Highway 101.
Une société qui produit des héros pour le seul profit est une société qui se raconte des histoires et fait de mythes des images à usage commercial. Qui plus est, ce genre d'émission se déroule généralement sous les tropiques, sur des îles dites désertes ou dans des paysages de cartes postales, c'est-à-dire baignés dans un exotisme de pacotille, ce qui est un pléonasme en soi. C'est-à-dire un kitsch qui joue sur le désir post-moderne de la majorité de ceux qui consomment, à savoir échapper quelques instants à son univers, dans lequel le travail est le plus grand dénominateur commun, pour un monde de soleil, de sucre et de farniente, autant dire une illusion sans goût ni intelligence, un mythe dans le mythe. Des histoires de soleil, de nana, de plaisir facile, dans une histoire d'aventure où héroïsme et exploit se confondent.
In a mellow tone,
you take it easy every day.
Play a melody,
and life is easy every way.
In a mellow tone,
pretty soon the smoother you go.
In a mellow key,
pretty soon you hear, pretty soon you know.
In a mellow style,
and when you sing,
a joy to hear.
You might as well make it swing.
Life's melody,
just listen.
To please me,
and not swinging constantly.
In mellow tone,
you ought to keep it soft and low.
There's mellow glow,
you needn't holler loud, you know.
Kind of mellow moan,
pretty soon you're living on love.
Sort of indigo,
pretty days ahead, pretty skies above.
A song of love, and love alone. In a mellow tone,
mellowly, mellowly, mellowly. Whatever you say to me, try to say it mellowly. Mother Nature sings.
And nothing hurts sweeter than a song.
For every single little
thing that nature sings all the day long. Life is a melody played by a natural band.
Sing a melody nice to hear.
No sense in goofing up the tempo.
But if you beat it, wanna roll a crowd.
Get a little louder, everybody gonna dig.
Oh, holler out loud.
Everybody listen, mind you blowing off
and
the way.
And whooping and hollering and yelling and screaming to say.
Later when you're looking back and digging what you said.
Nothing, never, meaning nothing, never.
Then you realize you're really talking out your head.
Just retain your part.
Every little flower has a beauty show. Listen by the hour,
make a pretty
living in a
moment
of silence. Go.
Plenty pretty music I've known. What's in that note?
Everybody listen, everybody gotta hear. You'll dig what's happening to me if you break down and listen to me. Slow and easy and mellow and breezy and bright, just right.
Oh. Yeah, say it mellow and people will listen and learn more sweet low. The longer the road you know. Each sound anybody's putting down gotta be their very own in a mellow tone. Light and fluffy as a cloud, never very loud. Do you sing it sweet and mellow, seldom ever in a bellow, and you're really gonna see everything you say and everything you do is gonna hang around a little while, because it's really be true if I ever get blue. And I know we're doing so do you, and never worry a minute, cause I know, don't you know, the blues are multicolored, all depending how you dig them and depending on your outlook. Well, let me see, weary blues, sad blues, bad blues, false blues, all kinds of blues, plenty of different kinds of hues. Yeah, sure, but the only blue that we know is indigo.
A song of love.
Yeah, a song of love.
And love.
Yeah, and love alone.
We're singing our song.
We're singing in the mellowest old tone.
In the mellow tone.
With the feeling of our own. Oh, yeah.
Autre genre d'émissions qui furent très en vogue ces dernières années, les pseudo-concours où de jeunes chanteurs en herbe acceptaient de se prêter au jeu de la soumission masochiste à des seconds couteaux du showbiz, autoproclamés professeurs. Des semaines durant, les spectateurs pouvaient se délecter du spectacle répété d'apprentis artistes. L'apprentissage étant dans notre époque, réactionnaire et petite bourgeoise, encensé pour ce qu'il représente la revanche du travail sur la pensée, de l'ordre hiérarchisé sur la liberté d'errer, du maître artisan sur l'élève assisté. sous la férule autoritaire du détenteur d'un savoir et d'une pratique passée du rang de l'art, c'est-à-dire de la libre pratique, à celui de l'artisanat, c'est-à-dire de la victoire de la main sur l'esprit. La chanson, l'art mineur censé transporter les foules, pour ce qu'elle a d'universel, de facile d'accès, de poétique et d'entraînante, ses émissions de télévision se sont tournées vers l'artisanat par excellence, la cuisine, qui s'adresse tant au goût qu'à l'odorat et à la vue, mais qui surtout touche à l'obligation qui nous est faite de nous nourrir pour survivre. Artisanat devenu depuis peu, par le biais du mythe de la tradition, de la culture nationale, du terroir, mythe ô combien conservateur, un art consommé, mettant les cuisiniers au rang des peintres ou des cinéastes. Ces émissions, donc, montrent des chefs en herbe, eux aussi, en train de concourir, et faire preuve d'agilité, de rapidité, de créativité, face aux caméras gourmandes. Cette cuisine de concours n'a plus rien de naturel, tant les aliments préparés finissent par sortir de leur réalité nourricière pour devenir des compositions où forme, couleur, matière ont plus d'importance que le produit lui-même. Sans parler des mélanges les plus osés, si tant est que le risque soit ici considéré. Mélange d'épices, de saveurs, d'éléments et autres aventures gustatives. La cuisine est devenue un défi et une aventure, autrement dit un sujet d'une mythologie qui n'a rien à envier aux grandes batailles ou aux découvertes d'antan. Combat des chefs, devant des millions de téléspectateurs qui se rêvent toc en tête, et s'essaient sans doute pour certains à des luttes épiques, devant leur fourneau familial. Notre société est devenue cela, une lutte cuilleur et batteur à la main, contre les éléments du repas, par le menu et au moulin. Combat de maître queue, de gastronome, combat de bourgeois, loin des disettes du tiers-monde et de la marmite de la cuisine familiale. Une mythologie de mets sur assiette, de dressage de plats, de coups de feu et de batterie en effervescence. Un consommé bourgeois de valeurs traditionnelles, de vérité dans le travail, de goût sûr et de consommation totale.
Look at me. Yeah, 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 yeah. I'm as helpless as a kitten up a tree. Feel like like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty just holding your hand. Might be the sound of your hello, hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. You can see that you. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's who I'm following you.
You're putting me on. And it's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. On my own. Would I wander through this wonderland alone? Never knowing my right foot from my left, my hat from my glove. We're too misty and too much in love.
Too much.
excuse me, please,
Il y a quelques décennies, on partait aux colonies comme en mission. L'Occident avait cette valeur moderne et cultivée qui permettait tous les excès, et surtout toutes les permissions, si je puis dire. L'heure était au bénéfice de la civilisation, et ceci circulait dans les deux sens. La modernité civilisatrice du Nord vers le Sud, les richesses du Sud vers le Nord. Puis vers les grandes guerres qui firent de l'Occidental un homme bien plus faible qu'il ne le disait. Quelques hommes de bonne volonté et des luttes pour l'indépendance. Les colonies devinrent destination exotique pour occidentaux en mal d'horizon, de soleil d'ailleurs, de rêve, ou tout simplement d'ennui. Mais l'exotisme est demeuré le même exutoire à un complexe de supériorité du blanc dont il étouffe depuis des siècles et qui a fini par l'atteindre jusque dans sa chair. Le blanc nie à tout autre la possibilité de vivre son histoire de façon totale et acceptée. C'est tout son mythe. Ainsi, certains pays sont devenus de bonnes destinations, jugées sûres, abordables, accueillantes, intéressantes, sexy, évoluées, modernes, malgré tout, et suivant les pouvoirs en place. Pour résumer, des régions fréquentables, comme il peut en être des gens dans certaines classes bourgeoises. Ainsi, des pays sont-ils catalogués, descriptions et images à l'appui. Ils ont su donner de bons signes indigènes, et faire preuve de tolérance, de responsabilité, d'ouverture, suivant les différents griefs qu'on pourrait leur faire, autrement quant à leur tradition politique, économique ou religieuse. Ainsi, l'exotisme est un mythe total et une mystification. Et pour mieux l'enrober, l'argument final sera qu'il faut toujours mieux leur apporter un peu d'argent par le tourisme que de les laisser mourir de leur pauvreté. Condescendance et non-considération, l'Occident dans toute son excellence. Aujourd'hui, pour parfaire ce rapport que l'occidental peut avoir avec l'exotisme, il est devenu une crainte qui pourrait mener à la peur panique. En effet, le mythe nouveau n'est plus celui du bon sauvage, mais celui du pauvre venu du sud, revanchard et prêt à tout, dans un combat à mort des civilisations. Et l'exemple le plus parlant de cette évolution de notre rapport avec le sud, au-delà de l'islamophobie, actuelle entraînée en partie du fait du terrorisme islamique, c'est le rôle joué par le migrant. D'autant plus s'il disparaît au fond de la Méditerranée. Celui-là est encore un mythe puisqu'il a disparu au fond des flots, mais il est l'arbre qui est censé cacher la forêt de ces hordes qui incessamment sous peu sont prévues en déferlante sur nos côtes. Le mythe sert à cela, mettre des histoires sur nos peurs irraisonnées et ignorantes, d'enfants perdus, et les combattre en les étouffant dans le flot irréel du récit, le mot contre le mal. Mais tout ceci n'est-il pas simplement un reflet de ce que nous avons été et restons profondément des négationnistes de l'histoire, celle avec un H majuscule.
Cero, cero, brinquitiqui va sonando el cumbanchero, bongo cero que se va.
commencer par opposer les tenants du travail à ceux de la pensée, dans un vieux combat mythologique entre la main et l'esprit. Je veux terminer ce petit tour mythologie présente et intemporelle par celle-ci, si répandue et si partagée. Celle du travail comme force émancipatrice de l'homme et comme principale, voire unique, valeur de jugement de la qualité de ce dernier. Loin de moi d'user de ce mythe que le travail vient par étymologie du tripalium, qui fut autrefois un instrument de torture à trois branches, dont les Romains usaient avec peu de parcimonie pour punir les esclaves récalcitrants. Cette ancienne est redondante et de peu d'intérêt. En revanche, il me semble bien plus probant de rappeler que le travail est un fait historique, et que si l'on en appelle à la tradition et aux ancêtres, encore et toujours comme à chaque fois que l'intelligence manque de moyens, on en appelle aux mânes des aïeux et à l'ancienneté, censément synonyme de sagesse avérée. Mais cela ne change en rien le fait que le travail est historique.
C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine, sans Freuden, sans le moindre petit drame. Mais un beau soir du mois d'août, il faisait si bon, il faisait si doux, que Monsieur William s'en alla flâner droit devant lui au hasard, et voilà. Monsieur William, vous manquez de tenue, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Il lui paya un bouquet de violettes, Monsieur William. Il l'entraîna à l'hôtel de la pègre, mais un nègre a voulu prendre la femme. Monsieur William, hors de lui, lui a donné des coups de parapluie. Oui, mais le nègre, dans le noir, lui a coupé le cou en deux coups de rasoir. Et William, vous manquez de tenue, mon vieux. Eh oui, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il a senti que c'est irrémédiable, Monsieur William. Il entendit déjà crier le diable.
Monsieur William, allons!
Aux alentours, il n'y avait personne qu'un trombone chantant la peine des âmes, un aveugle en gémissant, sans le savoir, a marché dans le sang, puis dans la nuit a disparu. C'était peut-être le destin qui marchait dans les rues. Monsieur William, vous manquez de tenue, vous êtes mort dans la 13e avenue.
Sans retourner aux heures dites sombres où nos ancêtres des cavernes ne travaillaient pas, étant chasseurs-cueilleurs, rien ne peut nous prouver pour autant qu'ils n'étaient pas sages. Il n'est qu'à considérer un travailleur occidental et son contemporain d'un pays pauvre et dit sous-développé. Mode de travail, profit du travail et finalité du travail n'ont rien en commun. Et ces différences notoires en un temps commun font du travail un fait historique. Comme tel, il perd toute sa valeur mythique, et du coup, en appelé à lui, comme totem ou dieu universel, valeur d'émancipation, d'enrichissement, de socialisation, d'existence même, avec un « je travaille donc je suis », tout cela est une grande et très ancienne mystification afin d'asservir l'homme à ce qui est donné comme son seul moyen de survivre, ou de se libérer, voire de s'imprégner de sa beauté, le travail. Le travail, pour certains, étant la beauté par excellence, en raison des gestes séculaires et de la vérité dont il use, autre grand mythe. Le travail reste, avant toute chose, un modèle de développement qui a trouvé sa source dans le besoin de trouver des ressources de subsistance dans une vie sédentaire. Il n'est en rien l'alpha et l'oméga de l'humanité. Et si un jour, cette fatalité du profit qui lui est attachée devait changer, le travail perdrait toute valeur aux yeux des hommes. Alors, je me mets à rêver à mon tour, et ceci est mon mythe. J'aimerais un monde où l'artiste aurait plus de place dans l'histoire que les généraux, et où le penseur, le rêveur, le poète soit plus considéré que le travailleur. Et là, évidemment, à chacun ses mythes. Merci, bonsoir.